Phil PM Paranormal.
The flying disc has been found.
El Mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Christian Page, comment qui va?
Comment ça va, toi, Bernard?
Ben, ça va très, très bien. J'ai passé un bel été et puis je suis de retour en pleine forme. Et toi, de même?
Ben oui, absolument. Puis je suis content de te parler à ce retour de vacances comme ça.
Pourquoi? J'entends ton petit sourire dans la voix, là.
Non, mais écoute, tu me manquais, mon ami.
Ah, c'est vrai? Ah, oh, écoute, dans ce temps-là, là, appelle-moi.
Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir quand même avec Louis Lacroix. Là.
Ben oui, il a très bien fait ça, d'ailleurs.
Oui, absolument.
Bon, écoute, on va y aller, sais-tu quoi? Je pense qu'on va y aller avec les agroglyphes, parce qu'il y a quand même, ça se passe en Angleterre d'habitude, mais là, ça nous a rejoint chez nous au Québec.
Voilà, qu'est-ce que c'est que ces agroglyphes? Alors, pour les auditeurs, je pense qu'on a tous entendu parler de ces histoires de cercles mystérieux qui, depuis les années 80, à la fin des années 80, ont commencé à apparaître dans des champs de culture dans le sud de l'Angleterre.
Ah, c'est magnifique.
Donc, évidemment,
hein?
Tout le monde s'entend pour dire que sur le plan esthétique, c'est magnifique. Certains sont tout à fait gigantesques. Ce sont souvent des figures géométriques qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est vraiment très, très beau. Évidemment, maintenant, quelle est la nature ou l'origine de ces cercles? Bon, il y a quelques individus qui continuent de croire qu'il doit s'agir de l'œuvre d'intelligence étrangère, des extraterrestres, des intelligences supérieures. Et bien sûr, la grande majorité des gens maintenant commencent à comprendre que ce sont des plaisantins qui, la nuit venue, vont profiter un peu de ces champs de culture pour faire des œuvres qui sont tout à fait magnifiques, mais qui, somme toute, ne sont en fait que du pliage de plants de blé, là.
Oui, mais là, attends un peu, Christian. Là. Oui. À l'ère des réseaux sociaux,
oui.
S'il y avait des plaisantins qui rentraient dans le champ de blé la nuit, à un moment donné, il y aurait quelqu'un qui les verrait, qui passerait à côté du champ en question, puis qui nous ferait une petite vidéo, puis qui dirait « Voilà, enfin, la preuve que ce ne sont pas des extraterrestres qui viennent, comment dire, concevoir puis donner naissance à ces œuvres magnifiques. »
Mais on les voit, Bernard, on les voit. Et mieux encore, ces gens-là, en fait, il y a plusieurs groupes. En chaque année, il y a différents groupes qui vont s'amuser à faire ça. Ils se sont eux-mêmes donné le nom de Circle Makers, hein, les fabricants de cercles. Et ces gens-là se filment même la nuit lorsqu'ils font les cercles pour les revendiquer. Évidemment, ils le revendiquent toujours sous l'anonymat parce qu'en Angleterre, il y a des gens qui ont été poursuivis pour avoir fait ça parce qu'on comprend qu'on détruit une partie de la moisson, de la récolte.
Oui.
Alors, évidemment, il y a des agriculteurs qui ont poursuivi les fabricants de cercles. Donc, ces gens-là, maintenant, se filment la nuit et vont revendiquer les cercles. Et c'est un peu un concours. Hein. Chaque groupe essaie de faire le plus gros, le plus beau, celui qui sera le plus mentionné dans les médias. C'est un peu ça, l'idée, c'est la popularité du cercle.
Donc, OK, mais là, ça règle la question. Donc, qui peut croire que c'est encore une intelligence étrangère qui fait ça?
Voilà, et c'est là tout le débat. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des faux cercles. Et est-ce qu'il y en a des vrais cercles parmi les faux cercles? Je ne dis pas non, sauf que depuis 25 ans, oui. S'il y a des vrais cercles parmi les vrais cercles sont faits exactement comme les faux cercles. Ça veut dire que s'il s'agit d'une intelligence extraterrestre ou d'une intelligence supérieure, ces gens-là débarquent au milieu du champ avec une planche de foulage, des cordes, puis ils font exactement la même chose que les faussaires.
Sauf qu'ils arrivent par en haut. Ils arrivent du ciel plutôt que d'arriver par le chemin d'asphalte.
Donc, jusqu'à maintenant, on n'a jamais trouvé une caractéristique précise qui permettrait de déterminer s'il y a des vrais cercles ou des faux cercles. Okay. Une chose est sûre, on sait qu'il y en a des faux.
Bon, je disais qu'il y a une connexion québécoise maintenant.
Voilà. Généralement, comme tu l'as mentionné, ces cercles, le terrain de jeu de ces circle makers, de ces faiseurs de cercles, ce sont surtout les champs de récolte dans le sud de l'Angleterre. Mais il arrive que des cercles comme ceux-là sont rapportés ailleurs dans le monde. Et là, on en a eu un au Québec. Hein. Ça se passe au matin du 2 août dernier. Donc, des gens dans la région de Saint-Lin arrivent dans leur champ et aperçoivent... C'est une figure relativement simple. Il s'agit simplement d'un très grand cercle qui fait à peu près 18 mètres de diamètre. Et sur le pourtour, on retrouve comme quatre petits satellites plus ou moins carrés qui touchent à la bordure du cercle. Donc, évidemment, ces gens-là croient qu'il y a quelque chose de mystérieux. Ils ont contacté notamment un groupe qui s'intéresse à la question des ovnis au Québec, qui s'appelle l'Association québécoise d'ufologie. Ces gens-là sont allés sur place. Et bien sûr, ils favorisent, comme je l'ai mentionné, ils favorisent pour l'instant l'œuvre de plaisantin. Mais néanmoins, ils ont quand même fait le travail. Ils se sont rendus sur place et ils ont pris les mesures nécessaires. Des photographies, des films également de la fameuse figure en question. Et c'est vrai que les témoins, les gens qui disent avoir découvert ce cercle au matin du 2 août, ces gens-là soutiennent que la veille, ils ont observé à travers les arbres des espèces de lumières qui se tenaient à peu près à l'endroit où le lendemain, ils ont trouvé le cercle. Alors, ou bien les extraterrestres étaient à l'œuvre, ou on avait quelques plaisantins avec des lampes de poche en train de s'affairer à faire ce travail. Poser la question, c'est peut-être y répondre. Mais enfin, pour l'instant, donc, ce phénomène des cercles, c'est pas la première fois. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, un cercle comme celui-là était apparu dans les Laurentides. Des gens m'avaient appelé, je m'étais rendu sur place. Encore une fois, on reconnaît l'esthétisme du travail, mais de là à conclure qu'il s'agit d'une intervention d'une intelligence étrangère, il y a loin de la coupe aux lèvres.
De là, encourager aussi les gens à le faire, alors que c'est des bons producteurs, producteurs agricoles qui essuient les pertes de ces, de cette belle créativité.
Voilà.
Parle-nous un petit peu du MH370, parce qu'il y a du nouveau, quoi.
Oui, voilà. Écoute, là, je comprends que c'est un peu du bonbon pour les amateurs de complot. Probablement, durant tes vacances, tu as vu passer sans doute l'information que le gouvernement de la Malaisie avait publié son rapport final sur l'incident du MH370. C'est ce fameux vol, ce Boeing 777, disparu dans la soirée du 8 mars 2014, alors qu'il venait de quitter l'aéroport de Kuala Lumpur. On sait que quelqu'un à l'intérieur de l'appareil a désactivé les balises de position, ce qu'on appelle les transpondeurs. L'appareil a rebroussé chemin et ensuite est allé se perdre quelque part au-dessus de l'océan Indien, dans des circonstances demeurées nébuleuses. Et là, cette histoire ne cesse de rebondir. Bien sûr, on est en présence de la plus grande énigme de l'histoire de l'aviation, mais uniquement cette année, donc 2018, on se rappellera qu'au printemps, une équipe américaine avait tenté de retrouver l'appareil en utilisant des submersibles, avec pour promesse, en fait, de toucher le magot si on retrouvait l'épave, ce qui ne s'est pas produit. Et là, durant l'été, les autorités malaisiennes ont rendu public le rapport et même le ministre chargé de l'enquête a remis sa démission parce que, entre les grandes lignes, il faut lire que les autorités n'ont absolument aucune idée de ce qui s'est passé. Ils évoquent peut-être la possibilité d'un troisième parti qui aurait pu être impliqué dans la disparition, mais ils ont été incapables d'alimenter l'hypothèse voulant que ce soit l'un des pilotes qui aurait volontairement essayé d'entraîner tous les passagers et l'équipage dans une espèce de suicide.
C'est pas exclu, mais on n'arrive pas à le démontrer. Voilà,
et là, on croyait que c'était, et moi-même, j'en ai parlé durant l'été, au moment de la publication du rapport, j'en ai parlé avec Louis Lacroix, et tous deux, on était d'avis que c'était probablement le dernier mot à l'histoire. Mais voilà que l'affaire rebondit, et cette fois, ça nous vient du gouvernement français. La gendarmerie de l'air française a décidé de réouvrir l'enquête sur la disparition du MH370. Et là, je comprends un peu les tenants des théories du complot parce que ça paraît quand même étonnant. Rappelle-toi, Bernard, il y a quelques années, c'était, je crois, en 1998, un appareil d'Air France s'était abîmé dans l'océan au large du Brésil. Et à cause peut-être de la difficulté de retrouver l'appareil, le gouvernement français était passé à deux doigts d'abandonner les recherches. Et pourtant, on parle ici majoritairement de passagers français. Alors que dans l'appareil, le MH370, il y avait 4 passagers français, les autres étant surtout des Chinois ou encore des Malaisiens.
Oui.
Et là, je ne fais pas un concours en disant les Chinois sont plus importants que les Malaisiens,
non,
on comprend, là, c'était majoritairement des gens soit venant de la Chine ou des gens de la Malaisie.
Et là, pose la question de l'intérêt du gouvernement français.
Voilà,
là.
Il y a 4 passagers à bord de l'appareil qui sont des passagers français. Et soudain, le gouvernement français réagit à travers la gendarmerie, décide de réouvrir l'enquête, on remet les comptes à zéro. Ce que l'on veut savoir, en fait, et on est loin d'être satisfait par les conclusions du gouvernement de la Malaisie, ce que l'on veut savoir maintenant, c'est d'où venaient ces informations, puisque les autorités n'ont pas été en mesure de documenter ce qui s'est passé à bord. Eux évoquent, on a confisqué les ordinateurs, par exemple, des pilotes, du copilote. On a également obtenu des données télémétriques qui avaient été transmises par des satellites, parce qu'on sait que les transpondeurs étant morts, en fait, éteints, il y a eu quand même ce qu'on appelle appelle des pics qui ont été obtenus par des satellites qui couvraient la région. Alors, on veut revoir toutes ces informations et vraiment, on reprend l'enquête à zéro. Et là, bien sûr, on se dit, mais pourquoi reprendre toute l'enquête à zéro alors que maintenant, depuis 4 ans, on sait les millions de dollars qui ont été mis là-dedans, les efforts menés par tous les pays qui avaient été en grande partie supervisés sur le terrain par l'Australie.
Alors, qu'est-ce que la France sait que nous ne savons pas?
Un peu la théorie du complot, c'est-à-dire que si la Chine baisse les bras, la Malaisie baisse les bras, les Australiens qui ont à un moment donné un peu pris la tête de ces recherches ont également baissé les bras. Qu'est-ce qui motive les Français soudainement à réouvrir l'enquête? Disposent-ils d'informations qui ne sont pas connues du public ou n'est-ce réellement que cette motivation d'avoir eu à bord 4 passagers français? Bernard, ça fait assez longtemps que tu fais de la politique et malgré toutes les volontés humanistes qu'on peut proposer, c'est sûr que l'équation financière, quelque part, doit être prise en considération. Et là, c'est comme si on faisait table rase de tous les millions qui ont été investis et on reprend l'enquête à zéro. Je comprends que les tenants de la théorie du complot soient un peu perplexes par rapport à tout ça.
OK. On s'arrête. Parce qu'au retour, je veux que tu nous parles du défi Momo. Hein? Ça concerne nos jeunes, notre génération qui vit beaucoup dans un monde
virtuel,
artificiel par moment.
Je t'en parle.
Il y a quand même une tragédie au cœur de ce défi Momo. On en parle au retour. De retour avec la chronique insolite Mythe et complot avec Christian Page. Parle-nous donc de ce défi Momo.
Écoute, Bernard, juste avant la pause, tu mentionnais ces jeunes qui, de plus en plus, vivent dans un univers virtuel. Et c'est tout à fait vrai, hein. C'est-à-dire que les jeunes ont leur téléphone intelligent d'une main et ils s'articulent, ils se meuvent dans une réalité. Et là, c'est souvent la frontière entre les deux est excessivement floue. Le cinéma aide beaucoup à ça, hein. On voit de plus en plus de films qui prennent l'affiche où on a des jeunes qui reçoivent, par exemple, un texto d'un ami décédé. Donc, on mêle un peu ce monde virtuel avec la réalité. Et ce Momo Challenge apparaît un peu au centre de cette préoccupation, de cet intérêt des jeunes versus l'univers virtuel. Il s'agit en fait d'une application sur, les jeunes vont reconnaître, là, ce qui s'appelle WhatsApp. Et dans cette application, on a une espèce de personnage qui est basé d'ailleurs sur une sculpture d'un artiste japonais. Et cette sculpture montre une créature mi-humaine, mi-animale. Donc, elle a des espèces de pattes d'oiseau, un buste de femme et une tête qui ressemble un peu à ces fantômes japonais ou asiatiques qu'on voit de plus en plus dans les films. Le visage excessivement blafard avec des cheveux un peu gommés sur le visage. Donc, c'est un peu l'image de ce Momo. Et l'application, donc ce personnage apparaît et lance des défis. Et les jeunes doivent relever ces défis. Et là, ce que l'on nous rapporte, c'est qu'une jeune fille de 12 ans a été retrouvée pendue à un arbre en Argentine et d'après ce que les autorités ont communiqué à la presse, en interrogeant ses amis, on aurait appris qu'elle jouait à ce jeu, à ce défi Momo, et que finalement, elle aurait décidé de se suicider en mettant sur Internet l'image de son suicide en essayant d'associer ça avec l'image de Momo. Là, il faut faire attention parce que ce n'est pas le défi de Momo d'avoir dit à l'adolescente de se suicider. Okay. Elle a voulu impliquer ce jeu-là à travers son suicide. Donc, il faut être excessivement prudent avec cette histoire-là. Et c'est vrai qu'il y a comme une espèce de sonnette d'alarme, évidemment, qui a été soulevée avec cette histoire-là. Mais je te rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre de raccourci. Rappelle-toi, dans les années 80, à un moment donné, lorsqu'il y a eu cette espèce de préoccupation un peu satanique, on a retrouvé, bon, il y a des gens qui commettaient des crimes en disant, bon, j'ai commis un meurtre parce que le diable me dit de faire ça, etc. Et là, souvent, quand on fouillait dans le passé de ces gens-là, on découvrait que beaucoup d'entre eux écoutaient de la musique heavy metal. Et là, soudainement, on s'y met à faire le lien. La musique heavy metal doit conduire au crime, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est vrai que ces jeunes écoutaient de la musique heavy metal, mais la musique heavy metal ne conduit pas au crime. Alors, tu comprends? Heureusement pour nous, parce que si on regarde tous les adeptes de musique heavy metal, oui, on serait dans de beaux draps. Donc, il faut faire attention ici d'éviter ce genre de raccourci qui pourrait être facile entre ce genre d'application versus le décès de cette jeune fille qui reste quand même dramatique. C'est vrai également que cet univers virtuel est souvent omniprésent dans la vie des jeunes et souvent on perd pied. Hein, je te rappellerai qu'en 2014, par exemple, Il y a trois fillettes qui se sont retrouvées dans un boisé. L'une d'entre elles avait été invitée par ses deux autres amies, deux fillettes âgées de 16 et 12 ans, et elle s'est fait poignarder à 19 reprises. Ses copines l'ont laissée pour morte. Elle a survécu heureusement. Et le procès qui a eu lieu l'an dernier, donc la plus vieille des deux adolescentes, celle de 16 ans, une certaine Anissa Weiner, a été condamnée à 25 ans à passer dans un institut psychiatrique pour maladie mentale. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'elle était persuadée qu'un personnage né sur Internet, donc un personnage qui n'a jamais existé, qu'on appelle le Slenderman. Oh. D'ailleurs, il y a un film qui vient de prendre l'affiche vendredi dernier sur le Slenderman. C'est un personnage imaginaire, né au début des années 2010 dans Internet. Ce personnage-là n'a jamais existé, mais les deux fillettes qui ont voulu commettre le crime, croyaient qu'en assassinant leur petite collègue de jeu, elles deviendraient des apôtres du Slenderman. Alors, tu vois un peu cette frontière entre le monde imaginaire, le monde virtuel et la réalité est souvent excessivement ténue. Et bien sûr, à l'origine, il ne faut pas voir dans ce phénomène-là comme étant la cause, mais bien sûr plutôt une conséquence. Donc, les deux fillettes en question, comme notre jeune adolescente qui s'est suicidée en Argentine, peut-être avait-elle des problèmes lié à la dynamique familiale, des problèmes personnels. Le jeu n'a été que l'exutoire, finalement, pour commettre l'irréparable.
Oui. Non, je pense que tu fais bien de le dire.
Oui, parce
tu fais bien de le dire parce que, écoute, là, tu y faisais référence. Là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre jeunesse là, qui passe beaucoup de temps. Là.
Oui.
Donc, il faut faire attention. Là. Mais en même temps, il faut toujours, tu sais, il y a tout l'enjeu de la cyberdépendance. Hein. Il faut faire très attention, hein, Christian. Il faut toujours garder un œil sur nos enfants.
Oui, effectivement. Donc, c'est un peu comme les gens qui... Beaucoup de parents me demandent si, bon, mes enfants écoutent de la musique heavy metal, si mes enfants jouent au Ouija, par exemple. Mm-hmm. Est-ce que ce sont des trucs auxquels je dois m'inquiéter? La réponse est non. Mais il faut quand même garder un œil là-dessus parce que la dérive est très facile.
Voilà.
Et là, à partir du moment où il y a une dérive, on peut se retrouver dans des situations dramatiques comme ça a été le cas en Argentine.
Christian Page, merci.
Ça me fait plaisir, Bernard.
À la semaine prochaine.
Oui, absolument.
Et merci à Larry Dufresne, réalisation mise en onde. Merci à Maryse Duchesneau et Valérie Beaudoin à la recherche cette semaine. Merci à vous surtout, les auditeurs. On se revoit, on se reparle lundi. C'est Marie-Claude qui s'amène. À partir de lundi, je vous le rappelle, Luc Lavoie va être avec nous de 14h15 à 14h45 et on va prendre les appels. À lundi.